reprenons, si vous voulez bien, avec Mariolina Bertini, qui est professeure à l'Université de Parme, en Italie, ville très proustienne, et qui est spécialiste à la fois de Balzac et de Proust. Ses travaux portent sur le roman du 19e et du 20e siècle, et en particulier sur la réception de l'œuvre de Balzac, et donc en particulier sur les rapports de Proust et de Balzac, sur lesquels porte un certain nombre de ses articles les plus récents. Mais je voudrais signaler qu'elle est l'éditeur de deux volumes importants de Proust dans la nouvelle édition des œuvres de Proust en allemand chez Zurkampf, l'édition de, si je ne me trompe, de Jean Santeuil et du Contre-Sainte-Beuve. Ce sont les deux volumes très importants que vous avez postfacés, comme on dit, annotés et édités. Et ce Contre-Sainte-Beuve allemand est important, puisque c'est le seul Contre-Sainte-Beuve fait récemment. En français, nous avons deux Contre-Sainte-Beuve très différents, ni l'un ni l'autre tout à fait satisfaisant, alors qu'en allemand, il y a un Contre-Sainte-Beuve publié avec Lucius Keller en 1997 qui est plus convaincant. Et puis, il y a un certain nombre d'ouvrages sur Proust que vous avez publiés. Je citerai simplement le dernier, qui est important, c'est un livre important, publié en 1996, intitulé « Proust et la théoria del romanzo »,« Proust et la théorie du roman ». Et puis, je disais, un certain nombre d'articles plus récents sur Balzac et Proust, Balzac dans le début de l'œuvre de Proust, puisque vous vous êtes intéressé pour beaucoup au début de l'œuvre de Proust, Jean Santeuil et le Contre-Sainte-Beuve avant la recherche du temps perdu. Alors, votre titre aujourd'hui est « Moralité de la lecture, de la vision pédagogique de Ruskin à la complicité proustienne ».
Merci pour cette invitation et cette présentation. Donc, je parlerai aujourd'hui d'un texte qui précède la recherche, mais qui n'est pas tout à fait un texte de jeunesse de Proust. Il s'agit de l'essai « Sur la lecture » auquel Proust donnera en 1919 un autre titre, « Journée de lecture », en le recueillant d'un pastiche et mélange. Proust l'écrit en 1905, lorsqu'il a 34 ans. Depuis 1900, il a consacré une partie de son temps à étudier et à traduire les œuvres de Ruskin. Il a été fasciné par la connaissance que Ruskin avait de l'art du Moyen-Âge et par son esthétique. Pour Ruskin, l'artiste doit être en mesure d'oublier tout ce qu'il sait pour transcrire, pour enregistrer sa vision originale des choses. Or, Proust partage cette idée de Ruskin. Mais Ruskin est aussi un moraliste. Il y a une morale à côté de son esthétique. Et pour Proust, la morale de Ruskin est beaucoup plus difficile à accepter que son esthétique. D'ailleurs, cette morale de Ruskin, à partie liée avec son esthétique, et la marque profondément, car pour Ruskin, la perfection esthétique est l'expression d'une perfection morale. Elle découle de la sincérité de l'artiste. En 1904, dans sa préface à la Bible d'Amiens, Proust avait déjà attaqué ce côté de l'esthétique de Ruskin en accusant le philosophe anglais de fonder ses jugements esthétiques sur des considérations morales. En 1905, Proust est encore plus péremptoire. Il traduit et commente « Sésame et les lys », un essai de Ruskin sur la lecture. Or, l'inspiration de cet essai est essentiellement morale. Pour Ruskin, les auteurs que nous lisons doivent avant tout nous transmettre des valeurs morales. Ces auteurs sont nos maîtres et nous sommes leurs élèves. Leur fréquentation doit nous rendre meilleurs, meilleurs au point de vue moral. C'est une idée qu'on retrouve dans certains philosophes contemporains comme Rorty. Antoine Compagnon avait déjà fait allusion à cette idée dans ses cours. Donc, face à cette vision simpliste, Proust décide d'exposer dans sa préface sa propre idée de la lecture. Pour Ruskin, il y a une séparation très nette entre l'auteur, l'écrivain, et son lecteur. L'auteur transmet des valeurs, le lecteur devient meilleur en les accueillant, en les acceptant. À cette séparation, Proust oppose sa vision du rapport entre l'écrivain et son lecteur, une vision fondée sur la complicité. C'est cette complicité, cette intimité qui fonde pour Proust la communication littéraire. Une complicité qui permet des progrès dans celle que Jacques Rivière nommait la connaissance du cœur humain. Pour illustrer cette idée, Proust procède comme ces philosophes grecs qui prouvaient la possibilité du mouvement en marchant, c'est-à-dire qu'il instaure dans son texte, dès le début, une complicité profonde avec son lecteur. Et il montre ensuite, contre Ruskin, que cette complicité est un instrument de connaissance. Comment Proust parvient-il à supprimer l'espace qui séparait traditionnellement l'écrivain du lecteur, s'opposant ainsi à la position moraliste et pédagogique de Ruskin? C'est à cette question que j'essaierai de répondre aujourd'hui. Le parcours que je suivrai à travers Sur la lecture, à partir du fil conducteur de cette opposition, me permettra également, je l'espère, de mettre en lumière quelques-unes des particularités qui font de cet essai une ébauche lointaine et émouvante de la recherche, ainsi qu'un premier tracé incertain de la voie proustienne vers le salut par l'écriture. Les premières générations qui ont abordé la recherche considéraient déjà comme une nouveauté renversante la tendance de l'écriture proustienne à nuancer, jusqu'à les effacer, les limites traditionnelles entre la subjectivité de l'écrivain et celle de son lecteur. Ainsi, en 1952, le critique italien Giacomo De Benedetti écrivait, en parlant du souvenir de ses premières lectures de Proust dans les années 20. Je cite, « Les autres écrivains étaient de simples écrivains de la même race que ceux que nous avions étudiés dans les histoires littéraires, des gens qui travaillaient avec du papier, une plume et de l'encre. » Proust, lui, semblait faire partie intégrante de notre destin. Il semblait prendre la durée uniforme de l'existence pour en faire une calligraphie de lumière, fluide, merveilleuse, incessante. De toute évidence, De Benedetti fait ici allusion à la matière privilégiée de Proust, à savoir les sensations et les émotions subliminales. Mais De Benedetti savait bien que cette espèce d'inquiétante complicité que Proust parvient à instaurer avec son lecteur ne dépendait pas seulement de sa capacité à rendre compte des nuances psychologiques imperceptibles. Elle dérivait aussi d'une inflexion particulière de la voix, d'un usage nouveau et très pénétrant de l'outil linguistique. Parmi les écrivains que le jeune Proust aimait à fréquenter, George Eliot avait déjà avancé dans cette direction. Souvent dans ses romans, au moment clé du récit, le narrateur apostrophait le lecteur pour lui soumettre un dilemme moral délicat ou bien pour le faire participer à une réflexion en marge des événements. Mais ce qui n'était pour l'auteur du Moulin sur la Flosse qu'un geste exceptionnel devient chez Proust une stratégie systématique. Une stratégie qui finit par transformer le discours proustien en un flux capable d'exercer une attraction irrésistible. Ce qui contribue le plus à l'implication rapprochée du lecteur dans Sur la lecture, c'est l'usage de la première personne du pluriel dans le prologue, c'est-à-dire dans la réflexion sur les lectures d'enfance qui précède l'évocation des souvenirs du narrateur. Ce prologue comprend deux phrases, une première brève et une seconde d'une longueur inusitée. Et voyons la première. Je cite « Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. » Proust ouvre donc son essai par un paradoxe. Les jours de l'abandon à la passivité de la lecture sont en fait les plus actifs dans la vie d'un enfant. Pour énoncer ce paradoxe, il a recours à l'adjectif possessif « notre » et au pronom personnel « nous ». Dans un but bien précis, abattre les cloisons qui séparent ses propres expériences enfantines de celles du lecteur. Notre enfance. Impossible de trouver un syntagme qui unisse avec autant d'immédiateté celui qui écrit à celui qui lit. Le pronom « nous » répété trois fois de suite, tel trois coups de marteau bien frappés, ne fait qu'insister sur la suggestion avancée par l'adjectif possessif « notre » associé au substantif « enfance ». Il existe donc un terrain commun où pénétreront ensemble narrateur et lecteur. Ils forment désormais un couple fusionnel dont la première personne du pluriel exprime la solidité indissociable. Ce même « nous », on le retrouve au cœur de la phrase suivante qui clôt le prologue et fait germer un second paradoxe sur le premier. Pour des raisons de temps, je me bornerai à résumer cette phrase qui est vraiment très longue. Donc, je la résume, je ne la cite pas. Si les jours d'activité véritable de notre enfance sont ceux que nous passons plongés passivement dans un livre, c'est parce que, tandis que nous lisons, s'accomplit en nous un phénomène absolument étranger à notre volonté et même à notre conscience. Il s'agit de la capture d'une image, capture dont Proust compare le fonctionnement à la technique de la gravure. Tandis que nous sommes plongés dans notre distraction, la lecture enfantine grave en nous, Proust utilise ce verbe qu'il emprunte au langage des arts figuratifs, grave en nous le souvenir de tout ce qui nous entoure, les jardins où bourdonnent les abeilles, les maisons de campagne, les ciels de printemps. grâce à cette gravure qui capture le souvenir, le livre que nous lisons devient à nos yeux un livre illustré, même s'il ne l'est pas matériellement. Lorsque nous le reprenons, bien des années plus tard, il nous montre, comme si le texte était accompagné d'illustrations, de gravures justement, le contexte où s'est déroulée la lecture, miraculeusement fixée, épargnée par le temps. Dans ma brève analyse de cette page évocatrice, j'ai voulu maintenir le « nous » employé par Proust. C'est le pluriel de majesté du mémorialiste, bien sûr, mais avant tout, c'est un dispositif pour intercepter le lecteur, pour lui suggérer qu'un simple geste d'introspection peut faire affleurer en lui des souvenirs analogues aux siens. Il s'agit de pousser le lecteur à franchir le seuil du texte et à pénétrer dans une scène imaginaire qui ne pourra que lui être familière. Lorsque cette scène s'impose au premier plan, avec ses mille et un détails caractéristiques et concrets, ce nous complice et incantatoire disparaît. Proust passe à la première personne du singulier, au je. Je cite. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger. Nous sommes passés du « nous » au « je ». C'est le « je » qui dominera toute la recherche de son impérieuse subjectivité. Mais désormais, le « nous » enjôleur de deux premières phrases a entraîné les lecteurs dans la sphère magique où Proust voulait justement l'attirer. Dorénavant, la lecture du texte sera aussi, inévitablement, une recherche d'analogie entre le vécu de l'écrivain et le vécu du lecteur. Cette recherche est fondée sur la complicité. Pour Proust, l'enseignement moral de la lecture, c'est que grâce à cette complicité, on peut sortir de soi, sortir de son égotisme, voir le monde avec les yeux d'un autre. D'autre part, ce « nous », avec ses pouvoirs prodigieux, ne disparaît pas vraiment après le prologue de « Sur la lecture ». Comme une rivière souterraine, il refait surface dans la séquence qui termine la partie la plus narrative du récit. Cette séquence, à peine plus longue que le prologue, nous raconte ce qui arrive quand on termine un livre préféré et qu'on doit se détacher de ses héros. Pour raconter cet adieu du lecteur enfant au personnage d'un livre chéri, Proust revient au « nous », à la première personne du pluriel. Je cite. Alors quoi ? Ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin. Ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. On aurait tant voulu que le livre continuât, et si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qu'il nous avait inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut. Ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui demain ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée, dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et la destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal des modes illustrés et de la géographie d'Eure-et-Loire. Dans le prologue, la communion qui s'instaurait entre l'écrivain et son lecteur grâce à la première personne du pluriel était une communion euphorique. Le « nous » fraternel naissait sous les signes d'un double bonheur. Le bonheur de l'enfant qui lit, la lecture est un plaisir divin, écrit Proust, et le bonheur de l'adulte qui se souvient. Cette page sur l'adieu de l'enfant à son livre préféré insinue un moment dysphorique entre ces deux bonheurs, un instant négatif où c'est encore la première personne du pluriel qui appelle le lecteur à partager avec l'écrivain non pas une expérience radieuse cette fois, mais la déperdition, le deuil face à une déception. Pas même le livre chéri n'est à la hauteur de répondre aux attentes quasiment mystiques que l'enfant lui a confiées. Le livre ne renferme pas l'univers et sa destinée, ainsi que l'espérait le tout jeune lecteur, mais des personnages voués à l'oubli et la voix d'un auteur prennent congé de son public sans lui avoir révélé ses vérités définitives sur la vie dont il a si bien su allumer le désir. Je voudrais m'arrêter maintenant sur la position privilégiée absolument évidente que Proust accorde à ce moment dysphorique, à ce moment de tristesse, de deuil. Car c'est sur cette séquence négative, mélancolique, que se termine le récit des lectures enfantines et la description du cadre où elles ont eu lieu. Pour souligner le changement de sujet et de registre qui caractérisera les pages suivantes consacrées à la discussion des thèses de Raskin, Proust va jusqu'à employer un expédient typographique qui ne peut échapper même aux lecteurs les plus distraits, une ligne entière de points de suspension. Présentée comme la conclusion de la première partie de « Sur la lecture », la déception écrase les lecteurs de tout son poids. Elle semble emporter le « nous » vers une catastrophe qui l'annule, ce « nous » lourd d'intimité que la voix du romancier avait créé avec toute sa force de persuasion. La catastrophe n'est toutefois pas définitive et la déception n'est pas le véritable point de chute de l'essai proustien sur la lecture. Dans la recherche, le narrateur, après la lecture du pseudo-journal des Goncourt, se surprend à douter de la magie illusoire de la littérature. Mais c'est justement cette déception, ce désenchantement, qui le prépare à la révélation contraire, autrement dit à comprendre la valeur salvatrice d'une littérature bien différente de celle de Goncourt, qui se fonde non pas sur l'enregistrement, mais sur le déchiffrement du passé et sur le démantèlement de l'illusion égotiste. Sur la lecture, la déception de l'enfant face au pouvoir limité de son livre préféré, a déjà une fonction semblable. Elle prépare, avec son contrepoint d'ombre et d'oubli, une révélation tout aussi lumineuse. Cette révélation remettra également au premier plan le « nous » fusionnel qui fait de l'écrivain et de son lecteur une seule et même personne. Une personne capable de saisir une vérité surprenante, la vérité des pouvoirs insoupçonnés de l'art et de l'écriture. Dans sa réflexion sur les mérites de la lecture, Raskin a souligné la valeur édifiante. Un livre digne de ce nom, devait renfermer le meilleur de la vie de l'auteur et s'imposer au lecteur avec l'autorité d'une bonté et d'une sagesse supérieure. Selon Raskin, lire les œuvres des grands du passé équivalait à converser avec eux, à s'élever spirituellement à leur très noble compagnie. Tout est explicite dans cette vision, directe et sans contradiction. Les classiques, pour Raskin, offrent au lecteur une synthèse admirable de beauté et de moralité. La lecture, contact privilégié avec la véritable noblesse d'esprit, nous éloigne de tout ce qui est bas et mauvais. Elle nous attire dans une sphère supérieure, sans aucun rapport avec le monde de l'ambition et des désirs vulgaires. Une constellation de valeurs positives, dépourvue de toute ombre, définit ainsi pour Raskin le rôle et l'espace de la littérature. C'est exactement ce qui se produira dans la morale et l'esthétique de Romain Rolland, que Proust discutera plus tard dans les Cahiers Sainte-Beuve. Proust ne partage pas cette vision imprégnée de moralisme pédagogique. Il lui oppose sa propre définition de la lecture, qui anticipe un aspect important de l'esthétique de la recherche. Loin de n'être que réception passive d'une sagesse préconstituée, la lecture est pour lui une activité fondamentalement créatrice. Les spécialistes qui se sont penchés sur ce texte ont souligné cet aspect. Je pense à des pages importantes de Paul de Man, à deux pages d'Antoine Compagnon dans La Troisième République de Lettres, à des pages de Lucette Finas. Donc, dans cette activité fondamentalement créatrice, c'est encore le « nous » que nous connaissons bien qui s'engage, ce « nous » qui semble faire surface à tous les moments clés de « Sur la lecture ». Je cite. « C'est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle, que pour l'auteur, il pourrait s'appeler conclusion, et pour le lecteur, incitation. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ses désirs, il ne peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. » Ici, la première personne du pluriel ne se limite pas à proposer au lecteur d'être complice de l'écrivain, mais fait appel à son esprit d'aventure intellectuelle. Proust guide ici son lecteur vers l'un des principes les plus révolutionnaires de son esthétique, une idée qu'il apparente au formalisme de Victor Sklovsky, qui vers 1917 mettra au point la notion de distanciation. Je cite encore une phrase de Proust, « Le suprême effort de l'écrivain, comme de l'artiste, n'aboutit qu'à soulever partiellement pour nous le voile de laideur et d'insignifiance qui nous laisse incurieux devant l'univers. » Proust et son lecteur, que le « nous » fait encore une fois fusionner, expérimentent dans ces lignes le pouvoir de distanciation qu'exerce l'art et la littérature. En rénovant la vision courante du monde grâce à des rapprochements déconcertants, l'artiste et l'écrivain écartent les rideaux opaques qu'ont tissé l'habitude, la paresse, la perception soumise à des objectifs utilitaires. Une expérience libératoire et éclairante intervient ainsi pour compenser la déception où aboutissait l'enthousiasme candide des lectures d'enfants. chargées comme elles l'étaient d'attente absolue, ces premières lectures étaient destinées à se heurter aux limites d'une œuvre littéraire en particulier, qui ne peut répondre à toutes les questions de celui qui l'interroge, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, communiquer une vision originale du monde. Cette vision passe de l'écrivain au lecteur sous les signes d'une amitié tacite à laquelle Proust consacre des lignes particulièrement intenses. Je cite « L'atmosphère de cette pure amitié est le silence plus pur que la parole, car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Aussi, le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents. Le langage même du livre est pur, si le livre mérite ce nom, rendu transparent par la pensée de l'auteur, qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même jusqu'à le rendre son image fidèle. Chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité. De là, une sorte de continuité, que les rapports de la vie et ce qu'il mêle à la pensée d'éléments qui lui sont étrangers excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée de l'auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir. La transparence semble être ici le point commun entre lecture et écriture. Il s'agit évidemment d'un de ces réseaux d'interlocution dont nous a parlé Antoine Compagnon il y a quelques semaines. Cette transparence semble désigner une pureté qui doit caractériser à la fois la lecture et l'écriture. Au pur silence de l'attention du lecteur doit correspondre la pureté de l'écriture. Il y a une évidente continuité entre cette vision novatrice de la lecture, qui sous le signe de la transparence ôte les barrières entre l'écriture et la lecture, et la façon dont Proust interpelle les lecteurs dans la première partie de son essai. Ces lignes traduisent en une formule théorique ce que les pages précédentes mettaient en pratique avec l'usage répété de la première personne du pluriel. La fusion de l'écrivain et du lecteur en une seule et unique subjectivité. Constater que la littérature et l'art exercent un pouvoir libératoire et de distanciation est une étape importante sur la lecture. Ce n'est toutefois pas l'horizon final. Proust consacre les dernières pages du texte au pouvoir de résurrection de l'art et de l'écriture, ainsi qu'à leur lutte victorieuse contre la mort. Une sorte de temps retrouvé en miniature, où encore une fois, c'est le nous, ce nous dont nous avons suivi les manifestations intermittentes, qui scelle la complicité entre l'écrivain et son lecteur. Pour le Raskin de ces Amélélis, mû avant tout par des soucis moraux et sociaux, l'héritage majeur du passé était le noble contenu de livres et œuvres d'art. Réservoir de sentiments élevés et de paroles éternelles de sagesse. Il y a, selon Proust, dans ses ouvrages, deux éléments plus déterminants est essentiel que les contenus explicites et rationaux, à savoir la forme que leur donne le rythme caché de l'âme de l'auteur et le langage, témoignage d'une époque historique révolue. Loin d'avoir ce caractère exemplaire et métahistorique que tendent à lui prêter les manuels scolaires, le langage des classiques, pour Proust, vit de son propre enracinement dans un passé dont il conserve les fragiles formes abolies. Je cite. Il est une autre cause à laquelle je préfère, pour finir, attribuer cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens. C'est qu'ils n'ont pas seulement pour nous, comme les ouvrages contemporains, la beauté qui sut mettre l'esprit qui les créa. Ils en reçoivent une autre, plus émouvante encore, de ce que leur matière même, j'entends la langue où ils furent écrits, est comme un miroir de la vie. Dans le prologue de Sur la lecture, les livres d'enfance s'avéraient précieux pour le lecteur adulte qui avait la chance de les reprendre en main et voyait s'y refléter les demeures et les étangs qui n'existent plus. Dans la conclusion, on attribue des vertus analogues aux livres et aux œuvres d'autrefois, transformées à leur tour en miroir du temps passé. Mais ce qui transforme ces œuvres d'art en miroir du passé, ce n'est pas leur contenu explicite, ce n'est pas leur contenu le plus manifeste et central. C'est plutôt ce qu'elles ont capturé de la vie transitoire qui les entourait. Les livres des grands de jadis doivent une partie de leur charme à l'atmosphère de l'époque où ils furent écrits, une atmosphère qui circule encore entre les pages, comme entre les palais d'une ville ancienne miraculeusement intacte. Je cite. Car ils contiennent toutes les belles formes de langage aboli qui gardent les souvenirs d'usage ou de façon de sentir qui n'existent plus. Traces persistantes du passé à quoi rien du présent ne ressemble et dont le temps, en passant sur elle, a pu seul embellir encore la couleur. Fin de la citation. Profitant de notre distraction, la réalité vécue de l'enfance s'est réfugiée dans la marge des livres dévorés avec avidité. La réalité des siècles passés, il faut la chercher en déchiffrant les traces qu'elle a imprimées dans les œuvres et les textes qui nous ont été transmis. Je cite, « C'est bien la syntaxe vivante en France au XVIIe siècle et en elle des coutumes et un tour de pensée disparu que nous aimons à trouver dans les vers de Racine. » Fin de la citation. Marge, trace. C'est vers l'ultime paradoxe de journée de lecture que Proust guide de main ferme ces « nous » tout aussi paradoxal qu'il a créé. À l'importance de la trace laissée sans aucune intention consciente et donc d'autant plus révélatrice selon Proust, répond l'importance de la marge. Un espace que la volonté de celui qui écrit tend à négliger et qui, pour cette raison, finit par accueillir la vérité mieux que tout autre. Je cite. Bien plus, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne. Entre les phrases, et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités. Dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée inviolé, remplissant les interstices, un silence bien des fois séculaire. Souvent, dans l'évangile de Saint-Luc, rencontrant les deux points qu'il interrompt avant chacun des morceaux, presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu les silences du fidèle qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour intoner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Ces silences remplissaient encore la pause de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, en avait gardé la forme. Et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta les parfums d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui ne s'était pas évaporée depuis près de 2000 ans. Dans la partie narrative sur la lecture, il était question d'un carillonnement, d'un son de cloche qui revenait comme un leitmotiv. Il entrait dans la chambre du narrateur, depuis l'église toute proche. Il l'avertissait dans le parc que le temps s'enfuyait. Ces carillonnements, ce son de cloche, appartenaient à cette marge non perçue, à ce cadre apparemment sans importance que la lecture sauvait paradoxalement de l'oubli. Et c'était dans cette marge que le son des cloches inscrivait une promesse de salut et d'immortalité, promesse chrétienne qui n'était plus un objet de foi pour l'écrivain agnostique, mais qui n'en était pas moins une composante inéliminable de son imaginaire et de sa sensibilité. Dans les dernières pages de Sur la lecture, un silence répond à ce carillonnement. C'est le silence que le narrateur pressent dans les espaces blancs de l'évangile de Saint-Luc et dont le texte a, selon lui, préservé toute la fraîcheur mêlée au parfum de rose que la brise avait répandu parmi les fidèles en prière. De même que les marges accueillaient, préservaient et préparaient la résurrection des images vivantes du passé, le silence que recèlent les versets de l'Évangile fait renaître l'espace d'un instant, le temps des origines, lorsqu'ils furent récités par les fidèles de l'Église primitive. Vertu de la marge, du silence, de la trace. Proust ne recherche pas la vérité dans les affirmations explicites et péremptoires, mais plutôt dans les espaces négligés où le hasard prépare ses révélations et les offre muettes et énigmatiques à l'intuition qui les déchiffre. La promesse de salut qui apparaît vers la fin de Sur la lecture a été confié à un silence. D'autre part, le silence était l'atmosphère pure évoquée comme une qualité spécifique de la lecture. Dans sa fragilité, cette promesse a quelque chose d'implicite, de réservé. Elle entrouvre pour le lecteur une vision nouvelle et problématique de son rapport avec les textes du passé, avec la mémoire qu'il véhicule, avec la vie passée dont il témoigne. Cette vision est l'horizon extrême du pacte de complicité que Proust noue avec son lecteur et qui est formulé pour la première fois dans « Sur la lecture ». Ce pacte n'introduit pas le lecteur dans un monde stable et rassurant, mais plutôt dans une sorte d'anamorphose, dans un paysage de miroirs et de mirages. Je voudrais citer une phrase d'Antoine Compagnon dans des cours des dernières semaines. La lecture littéraire commence par la désorientation et la perte. Donc c'est de cette désorientation, de cette perte qu'il est question ici. Autour du lecteur, le passé, qui pour ressusciter est capable de s'insinuer dans les marges du vécu et de l'écriture, se heurte au présent. Le présent est destiné à triompher, mais rongé de l'intérieur, par l'activité incessante du passé qui revient. Donc, à l'origine, la dernière page de Sur la lecture, que Proust a coupée en 1919, laissait une grande place à ce conflit, au conflit entre le passé et le présent. La scène s'est déroulée dans une Venise onirique, devant les palais des Doges, où se dressent deux colonnes en granit gris et rose, amenées de l'Orient au XIIe siècle. Ces deux colonnes de la piazzetta, de la petite place devant le palais des Doges, devenait l'emblème de la présence déstabilisante du temps perdu dans les interstices du présent. Je cite. Tout autour, les jours actuels, les jours que nous vivons, circulent, s'épressent en bourdonnant autour des colonnes. Mais là, brusquement, s'arrêtent, fuient comme des abeilles repoussées. Car elles ne sont pas dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, mais dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. Autour des colonnes roses, jaillies vers leurs larges chapiteaux, les jours actuels se pressent et bourdonnent. Mais interposées entre eux, elles les écartent, réservant de toute leur mince épaisseur la place inviolable du passé. Du passé familièrement surgi au milieu du présent, avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas et qui sont en réalité situées à bien des siècles, s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit, l'exaltant un peu comme on ne saurait s'en étonner de la part du revenant d'un temps enseveli. Pourtant là, au milieu de nous, approché, coudoyé, palpé, immobile au soleil. C'est sur cet horizon d'inquiétude à la temporalité vacillante qu'en 1905, Proust associe son lecteur à sa propre recherche de la vérité, avec le geste complice de rapprochement que nous avons tenté de saisir dans ces pages. Et c'est de l'équilibre altéré que ce geste instaure au cœur de son discours que naîtra quelques années plus tard l'accent captivant de la recherche et son pouvoir singulier de fascination. Merci.